Haute fréquence, Fabien Unenberger.
Si je vous demande de me citer un réformateur qui a marqué la Suisse romande, sans doute me citerez-vous Jean Calvin, peut-être Guillaume Farel ou éventuellement Théodore de Bèze. Pourtant, il est un homme que l'histoire a presque oublié, mais qui au XVIe siècle a marqué l'histoire religieuse de la Suisse romande. Cet homme, c'est Pierre Viret, et le canton de Vaud marque cette année les 500 ans de sa naissance. Évelyne Auberçon nous guidera en ville de Lausanne sur ses traces avant d'évoquer avec l'historienne Karine Crouzat les raisons qui ont fait que Pierre Viret est devenu, si vous me passez l'expression, le Poulidor de la réforme en Suisse romande. Mais avant cela, nous évoquerons une actualité cinématographique dans Haute Fréquence, en marge du Festival de Cannes. Gabriel de Sarzan s'est entretenu cet après-midi avec Frédéric Maire, journaliste, directeur de la Cinémathèque Suisse à Lausanne, pour évoquer le foisonnement de films qui traitent de religion ou de spiritualité dans ce festival. Alors, comment aborde-t-on la question religieuse aujourd'hui sur grand écran? Avec quelles audaces, quelles nouveautés? Telles sont les questions qui nous occupent ce soir en première partie d'émission. Vous êtes dans Haute Fréquence, bonsoir. Et bienvenue à vous. Le festival de Cannes qui se déroule actuellement avec son lot de paillettes, de vedettes, et Gabriel de Sarzan aussi avec quelques thématiques religieuses à l'affiche.
Oui, parmi la vingtaine de films à briguer la Palme d'Or, plusieurs d'entre eux ont une connotation spirituelle. Par exemple, avec Habemus Papam, le réalisateur italien Nanni Moretti s'intéresse au Vatican à travers l'histoire d'un cardinal qui ne se sent pas prêt à accepter la charge papale à laquelle il vient d'être élu. Dépressif, il est pris en charge par un psychanalyste athée et divorcée. On serait donc dans ce film en présence de la problématique du doute spirituel.
D'accord, hein. Donc un doute que ressent une des figures phares de la chrétienté. Peut-être un deuxième exemple de film à connotation religieuse, Gabriel ?
Oui, le réalisateur Lars von Trier signe avec Melancholia un film catastrophe sur le thème de la fin du monde. Il s'agit de l'histoire d'une famille en pleine décomposition quand une planète, Melancholia, est sur le point d'entrer en collision avec la Terre. Film qui n'a pas encore été projeté à Cannes, peut-être il faut le préciser. Et puis demain, le public de la Croisette verra enfin le très attendu film de Terrence Malick, The Tree of Life, l'arbre de vie, qui a pour thème l'enfance et la foi en la vie, malgré la violence et la mort.
Trois exemples alors de cette concentration de films à connotation religieuse ou spirituelle.
Oui, et en plus, à la quinzaine des réalisateurs, donc en parallèle au film en compétition pour la Palme d'Or, le réalisateur Philippe Ramos a déjà présenté son film Jeanne captive sur le personnage de Jeanne d'Arc. Une Jeanne d'Arc face à sa foi, mais toute en sensualité, semble-t-il. Tout ça pour dire qu'il y a comme une sorte de tendance au développement de la thématique religieuse sur grand écran. C'était déjà perceptible l'an dernier avec le film Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois qui avait été primé.
Et alors pour en parler, je le disais à l'instant, vous avez interviewé Frédéric Maire, donc directeur de la Cinémathèque Suisse à Lausanne, qui est à Cannes en ce moment, que vous avez attrapé en fait juste avant la projection à laquelle il s'apprêtait à assister.
Oui, j'ai commencé par lui demander justement si Cannes 2011 était une édition particulièrement spirituelle.
Disons oui, parce que c'est vrai que si on regarde bien le programme, on peut se rendre compte que avec évidemment le film de Nanni Moretti, Habemus Papam en tête de file, il y a beaucoup de films qui traitent de thématiques spirituelles et il y a même une nouvelle version de l'histoire de Jeanne d'Arc qui est donc évidemment un sujet éminemment spirituel depuis les débuts du cinéma, puisque je crois que les tout premiers Jeanne d'Arc ont été réalisés au tout début de l'histoire même du cinéma. Ce qui est intéressant, c'est que Jeanne d'Arc est à la fois une figure hautement spirituelle et en même temps une figure de cinéma. On voit bien que Philippe Ramos s'intéresse moins à la dimension, on va dire, religieuse du personnage de Jeanne d'Arc que à la fois à sa figure, donc à la manière dont il la représente, et en même temps, évidemment, en la représentant, il ne peut pas s'empêcher de se poser des questions spirituelles en retour. Et au fond, on voit Jeanne d'Arc dans certains moments de son existence, après avoir été capturée, au moment où elle va être transférée aux mains des Anglais, et on voit Jeanne d'Arc qui doute, qui perd la voix de Dieu, qui n'entend plus la voix du Dieu, qui choisit le suicide dans cette version-là. Elle choisit de se tuer et elle ne meurt pas. Et donc, au fond, c'est une interrogation de sa relation directe avec Dieu. Et je crois que ce qui est très frappant dans les films qu'on a vus ici, que ce soit cette année ou l'année dernière. Je pense notamment à un film qui est sorti récemment en salle, qui était Les Quattro Volte de Michelangelo Frammartino, qui était un film plus animiste peut-être, mais en même temps qui posait des questions très spirituelles. Au fond, c'est un retour sur l'humain. C'est-à-dire qu'au fond, l'interrogation est moins une interrogation sur l'Église, sur le fonctionnement de l'Église, qu'une interrogation toujours plus forte sur l'homme, l'homme en relation avec ce que peut être Dieu, ce que peuvent être les religions, toutes les religions sans exception. Et cette préoccupation est probablement, était déjà au centre des hommes et des yeux, des dieux, et elle est aussi au centre de Habemus Papam, et elle est encore une fois au centre de Jeanne Captive, le fils Ramos.
Extra. Écoutez, peut-être on va juste revenir avec à ce film Habemus Papam que vous avez vu à Cannes avec Michel Piccoli dans le rôle du pape Melville. Alors, est-ce qu'il y a dans ce film de Nanni Moretti une nouvelle façon, selon vous, d'aborder la religion ou les questions spirituelles ?
Non, je pense que le film n'est pas foncièrement un film qui parle de l'Église ou de questions spirituelles, ou si on le veut, mais par la bande, parce que au fond, même si le film décrit donc l'élection d'un nouveau pape, qui est ce pape incarné par Michel Piccoli, qui soudain hésite à prendre ses fonctions, est avant tout une question sur le doute. C'est une question sur, au fond, est-ce que moi, en tant qu'homme, même si j'ai été nommé par Dieu, j'ai le droit de prendre cette charge ? Est-ce que je suis capable de l'assumer ? Et au fond, le film est plus une réflexion sur le pouvoir qu'une vraie réflexion spirituelle. Mais en même temps, les choses se confondent et on voit que les références spirituelles abondent dans le film, mais d'une façon évidemment qui est celle d'une vision totalement laïque, hein, puisque Nanni Moretti lui-même est laïque, s'affirme comme laïque. Mais en même temps, il décrit La réalité de la vie d'un conclave et la réalité, encore qu'il en rajoute beaucoup, les cardinaux qui font du volleyball dans les cours du Vatican, c'est quand même pas très conventionnel, mais en même temps, c'est un film qui n'a rien d'irrévérencieux. C'est un film qui, comme je l'ai dit, réfléchit sur le pouvoir et la spiritualité, elle intervient plutôt dans cette vision que Michel Piccoli peut avoir du monde et le doute que cela génère en lui.
Et comment est-ce que ce film a été perçu par le public à Cannes ?
Je crois qu'il a été plutôt bien perçu. Bon, il faut savoir que le public à Cannes, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque c'est avant tout des professionnels, c'est des gens du cinéma. Donc, en tout cas, les professionnels étaient plutôt enthousiastes ou assez contents. La critique était mitigée, comme souvent. Mais ce qui a été fascinant, c'est la projection publique, on va dire celle officielle, où il y avait tous les gens en smoking, qui a reçu une immense ovation. Le film a été ovationné debout par une foule en délire. Et c'est étonnant, parce que c'est la première fois, je crois, dans l'histoire que Nanni Moretti a eu les larmes aux yeux grâce à cette ovation. Donc tout d'un coup, le film a touché. Je pense que, quelque part, le fait que l'an dernier, de la même façon, Des Hommes et des Dieux avait été aussi ovationné est à la fois un bon signe pour le film et aussi ce désir peut-être du public de ne plus voir des films, ou en tout cas de ne pas forcément se passionner pour des films d'action ou pour des simples mélodrames, mais plutôt pour s'intéresser en effet à des sujets un tout petit peu différents.
Donc le fait religieux aurait comme ça un peu le vent en poupe, en tout cas sur grand écran.
Je crois, dans le sens où de façon générale, on va voir ici encore les jours qui viennent un film qui s'intitule très justement « Hors Satan », hein, donc en référence à un personnage qui c'est un film de Bruno Dumont qu'on n'a pas encore vu, qu'on se réjouira de découvrir, mais qui raconte l'histoire d'un ermite qui prie à peu près toute la journée, mais qui peut être perçu par certains comme un diable. Il y a le film « Tree of Life » de Terrence Malick, qui est aussi un film qui raconte au fond l'histoire de l'humanité, ce qui n'est pas rien, à travers l'histoire d'un arbre et de différents destins de famille, et qui évidemment est empreint d'une grande spiritualité, ou encore « Melancholia » de Lars von Trier, qui là aussi parle d'un espèce de nouveau monde, et qui répond à son film précédent qui s'intitulait « L'Antéchrist ». Donc on peut vraiment se rendre compte que le cinéma a peut-être moins envie de parler de guerre, de sujets politiques. Il y a de moins en moins de politique, ou alors le politique, il est caché derrière des réflexions plus larges et en effet plutôt spirituelles.
Qu'est-ce qu'on ose aujourd'hui qu'on n'osait pas avant ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau finalement dans ces films à connotation spirituelle ?
Je pense qu'on ose aujourd'hui des choses différentes. C'est-à-dire, je pense qu'il aurait été impensable que le Vatican donne son aval et n'empêche pas de toutes ses forces le tournage des images que Nanni Moretti a pu faire, puisqu'il représente quand même le Vatican, même s'il n'a pas tout tourné dans le Vatican, mais il a quand même tourné aussi les façades, etc., avec l'aval de l'Église. Et je pense que là, c'est les mentalités de l'Église qui ont changé et qui permettent à des cinéastes de tourner. Et je crois qu'on peut se permettre tout, mais en fait, si on y regarde bien, dans l'histoire du cinéma, on se rend compte que si on prend le cinéma de Buñuel, par exemple, qui tirait à boulet rouge sur l'Église, il s'est permis des choses extrêmement brutales, qui lui ont valu d'ailleurs plusieurs critiques de la part de l'Église, mais il s'est quand même permis de le faire. Ce qui a changé, je pense fondamentalement, c'est pas ce qu'on se permet, mais c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a plus d'ouverture, plus de tolérance et certaines censures qui ont frappé Bresson et d'autres cinéastes à partir du moment où ils ont affronté des personnages religieux dans leurs films, comme justement dans La Religieuse, le fameux film de Bresson. Aujourd'hui, on n'oserait plus les censurer, on n'oserait plus les critiquer, et je pense que les derniers films qui ont relu ou revu l'histoire de Jésus-Christ, qui ont traité du religieux très profondément, n'ont pas vraiment provoqué de polémique.
C'était Frédéric Maire en direct, en différé de Cannes, puisqu'il est actuellement en train de visionner un film, qui répondait à vos questions. Gabriel de Sarzan, Frédéric Maire, on le rappelle, directeur de la Cinémathèque suisse, qui décryptait pour nous l'importance que le spirituel, les questions religieuses, ont pris dans la programmation du Festival de Cannes.
Assez de passer, baisser lumière, c'est ce jeu avec mes nerfs, décéder ce que j'étais hier, euphorisant et plus touché d'air, éphémère, envie de vous, j'ai un objet tranchant, hache ou bien cutter, que faisons-nous sur terre, ici on s'ennuie toutes les nuits, catastrophe, j'y crois plus. Des deux ailes dans le dos, c'est le béaba, c'est l'alphabet des gens qui s'oublient déjà, effacer les accents. Aimez-vous me voir, haine ou amour, océan de fleurs ou bien de pessimiste de nature, curieuse de tout, air irrespirable. Est-ce la fin de nous, ou est-ce la fin de tout? T'es vraiment un rendez-vous manqué, humaine mais pas civilisée. Vêtier ou WC, et les films X où ils craquent à 100 mètres le dos en Z, et c'est le B. C'est l'alphabet des gens qui s'oublient déjà, effacer les accents. On a des O, des A, et c'est la vie des gens. Les accents.
qui s'oublie déjà.
Comme il le dit lui-même, donc Raphaël, ça s'appelle l'alphabet des gens.
Haute fréquence, le son des religions.
Vous ne le savez sans doute pas, mais nous fêtons cette année les 500 ans de Pierre Viret. Pierre Viret, figure peu connue a priori, pourtant grand réformateur, une personnalité née en Suisse romande, cas exceptionnel parmi les réformateurs de ce temps-là, mais qui est resté dans l'ombre des Calvin, des John Knox, des Théodore de Bèze qui ont fait les grandes pages de la réforme en Suisse romande. Alors, puisque cette année le canton de Vaud a décidé de réhabiliter cette figure, de la faire mieux connaître, eh bien, dans notre fréquence, on s'est intéressé au personnage, on a voulu creuser, comprendre d'où il venait, quel était le panorama de son temps, et c'est vous, alors Evelyne Auberçon, qui vous êtes penchée sur le personnage pour mieux le connaître, pour suivre ses traces, en particulier des traces que l'on trouve notamment en ville de Lausanne.
Oui, à Lausanne, où ce natif d'Orbe va être l'un des premiers à prêcher la réforme. Lausanne, où il va diriger la première académie réformée au monde avant Genève, et les Vaudois en sont fiers. Et auparavant, eh bien, il a parcouru la campagne vaudoise en long et en large. Il a même été jusqu'à Neuchâtel, à Genève aussi. Et c'est en fait dans les bagages des Bernois qu'il arrive à Lausanne au moment où ceux-ci conquièrent le pays de Vaud, c'est-à-dire en 1536. Mmh. Mais à Lausanne encore, Pierre Viret va entrer en conflit avec ses Bernois et va devoir s'exiler. Il va être banni en 1559, soit un peu plus de 20 ans après le passage à la réforme. Il ira d'abord à Genève, puis en France, où il va continuer de prêcher les idées de la réforme.
Donc une vie mouvementée et bien remplie, Evelyne. Pourtant, ce qui est quand même assez étonnant, la grande histoire de la réformation l'a oublié. Je veux dire, on retrouve même pas Pierre Viret parmi les quatre réformateurs du mur à Genève.
Que sont Jean Calvin, Guillaume Farel, John Knox, Théodore de Bèze, tous des amis à Pierre Viret, exactement.
Mais lui n'y est pas.
Donc c'est la question que nous allons poser tout à l'heure à Karine Crouza, qui est historienne, maître assistante à l'Université de Lausanne. Mais pour l'heure, eh bien, je vous propose de faire mieux connaissance avec Pierre Viret grâce à une balade dans les rues de Lausanne en compagnie de la pasteur Jocelyne Muller. Elle a mis sur pied tout un parcours ouvert à tout un chacun durant tout cet été et qui va faire revivre Pierre Viret, notamment au travers de textes, des textes qui sont interprétés par le diacre René Sterckx. En l'occurrence, la balade à laquelle j'ai participé était réservée au pasteur et j'ai pu le vérifier. Ceux-ci méconnaissent aussi bien souvent ce personnage. On commence la visite par l'église Saint-François à Lausanne.
Nous allons faire une promenade qui va nous prendre entre 1 heure et 1 heure et demie. Nous partons d'ici Saint-François pour aller jusqu'au château. Et puis, nous avons la grande chance d'avoir avec nous Pierre Viret.
J'étais seul lorsque pour la première fois je posais en ce lieu la plante de mes pieds. La ville n'obéissait pas encore aux ordres de Berne. Elle avait un évêque, entouré d'une nombreuse garde de chanoines et de prêtres subalternes, et toute une troupe de moines. Sans compter la faction de l'évêque, j'avais à lutter contre au moins 4 confréries de religieux. Je ne me dissimulais pas combien j'étais insuffisant pour une tâche pareille. Mais je me reposais sur l'assistance du Seigneur qui m'avait assigné ce poste de combat. En effet, tout de suite, il m'a adjoint des compagnons d'œuvre et même des conducteurs, car parmi les bourgeois de la ville, un assez grand nombre m'ont tendu des mains secourables et n'ont pas tardé à faire profession de la même doctrine et de la même religion que moi.
Alors, on commence ici, dans cette église Saint-François, parce qu'il semble-t-il que c'est le premier lieu à Lausanne où Pierre Viret a mis les pieds. Lorsque les Bernois ont passé à la réforme, leur désir immédiat, ça c'est intéressant, c'est que quand ils conquéraient des terres, ce qu'ils ont cessé de faire, ils vont aussi en même temps amener dans leur bagage des prédicants. Il ne s'agit pas d'envoyer un prédicant suisse-allemand qui parlerait tant bien que mal le patois vaudois. Ils vont chercher quelqu'un qui sait aussi dans la langue des conquis leur adresser le pur évangile. Et donc, ils vont beaucoup chercher. Et puis, les Bernois vont d'abord trouver Farel, qui vient de Gap, du Dauphiné. Et Farel n'aura qu'un seul désir, c'est venir à Lausanne, parce qu'il faut venir dans le lieu où il y a l'évêque. Mais les Lausannois vont interdire. Donc pendant longtemps, Farel piétinera, mais ne pourra pas venir. Or, en 1536, Pierre Virecki à Neuchâtel a été appelé à l'aide à Genève. En prenant la route pour aller à Genève, il est dans les bagages, en quelque sorte, des Lausannois. Et les Lausannois, se rendant compte que c'est un prédicant, lui disent « Ouh là là, mais avant d'aller à Genève, tu voudrais pas faire un détour par Lausanne ?» Viré hésite, écrit à Farel, à Calvin, qui lui disent « Ouh, alors si tu as la chance d'aller à Lausanne, surtout fais le virage, il y a tellement longtemps qu'on attend Lausanne. » Et c'est pour ça, un peu par hasard, que Pierre Viré arrive à Lausanne. Ici sur une place qui était l'endroit où était bâtie ce qui deviendra la cure de la Madeleine, qui était une grande maison occupée par un des chanoines de la cathédrale. Viré habitera dans cette maison pendant 20 ans et c'est pour ça que quand elle a été détruite en 1912, je crois, on l'a remplacée par une fontaine parce que la maison a été abattue pour permettre la rue Pierre Viré. Et donc c'est écrit « Si je dois souhaiter que Dieu soit glorifié entre les hommes, où dois-je désirer qu'il le soit plus et plus totalement qu'au pays de ma naissance ?» Alors, c'est l'occasion ici de vous parler un petit peu de la vie de Pierre Viré. Pierre Viré est donc né à Orbe en 1511. Pierre Viré est un naturel sérieux, studieux. Il rêve d'être prêtre, de sorte que son père décide de lui payer des études et qu'il va l'envoyer à Paris. Rien de moins, à Paris, au collège de Montaigu. On sait donc qu'il a été touché par les idées de la réforme, qu'il est très intéressé par la réforme. Il faut quand même que Farel vienne prêcher à Orbe, repère immédiatement dans l'auditoire ce jeune homme, d'autant quand il apprend qu'il est au bénéfice d'études supérieures. Et c'est Farel qui, avec sa voix puissante, puisqu'on dit que c'est le tonnerre, Farel, c'est Farel qui va réussir à convaincre et qui va en quelque sorte, entre guillemets, ordonner Viré et le pousser à devenir prédicant. Je vous propose maintenant de monter à la cathédrale où nous allons assister à la dispute de Lausanne. Donc je vous ai amené là devant le vitrail de la dispute. Berne en 1536, en mars 1536, occupant le pays de Vaud assez facilement, leur premier souci, ça va être l'organisation politique de ce nouveau pays dont ils viennent de prendre possession. Mais comme je vous ai dit, dans leur bagage, ils ont toujours avec eux des prédicants. Le temps a passé, les certitudes se sont acquises et pour les Bernois, il n'y a plus question de discuter si on est pour ou contre la réforme, s'il y a des opinions. De sorte que la dispute qui va être organisée au mois d'octobre 1536 à Lausanne n'est plus une dispute qui doit se terminer à la fin par un vote, mais c'est une dispute qui a pour but de convaincre les gens, de leur prouver que véritablement, les idées réformées sont supérieures aux idées catholiques. Alors, on demande à Farel, qui est la référence, d'élaborer 10 thèses qui reprennent les grandes questions de la réforme et on convoque tout le monde le 1er octobre à la cathédrale de Lausanne. Les principaux intervenants de cette dispute seront, du côté protestant, seront bien sûr Farel et Viré et Carolier. Et ils essayeront de susciter la discussion, mais il y aura peu de réponses donc, du côté catholique. Un des moments importants et intéressants, c'est le mardi, lorsque la question de l'autorité est abordée. à ce moment-là, Vire va intervenir, c'est la question de savoir, mais de par quelle autorité est-ce que vous dites cela ? Alors, l'Église catholique le dit, c'est au nom de l'Église, c'est l'Église qui a autorité, et les protestants vont dire, c'est au nom de l'Écriture. Alors, le dominicain, Dominique de Montbouzon, se présente et dit, l'Église est avant l'Écriture et par-dessus celle-ci. À quoi Viret répond ?
Puisque vous dites que l'Église est plus grande que l'Écriture, il s'ensuit bien que les hommes sont par-dessus la parole de Dieu, selon votre proposition et argument.
La dispute va s'arrêter le 8 octobre, de nouveau par un discours, un sermon de Farel. Et quelques jours après, soit le 19 octobre, il y aura déjà des ordonnances venant de Berne pour dire « Désormais, le pays de Vaud est réformé. » Désormais, la messe est abolie. Donc, en très peu de temps, les Vaudois vont devoir passer comme ça, d'une fois à l'autre. Alors, même si Viret dit joliment et heureusement qu'on ne peut pas forcer les consciences, il n'empêche que les Bernois, tout de même, ont procédé à cette opération d'un changement radical de foi. Il nous reste encore à aller à l'académie et puis au château pour vivre la fin de la vie de Viret. Quand on passe à la réforme, comment s'assurer que les gens vont devenir réformés ? Eh bien, la réponse, elle va être relativement simple. On va créer des consistoires. Dans les consistoires, il y a non seulement le pasteur, il y a non seulement un représentant de la paroisse, il y a aussi un représentant de Berne et de la commune. Et dans ce consistoire, on va faire venir les gens qui n'ont pas un comportement moral ou doctrinal qui nous semble réformé. Donc les pécheurs graves, les alcooliques, les adultères, les voleurs, les je sais pas quoi, vont être évidemment bien sûr convoqués. Enfin, si c'est trop grave, ça relève du tribunal civil. Et puis, alors ceux qui se livrent à des actes qui relèvent de l'ancienne religion vont aussi être convoqués. Ainsi, la délation va être utilisée. Ainsi, si on sait que sa voisine a été de nuit assister à une messe, on ira dire au consistoire, elle a été. Ou de même, si on sait que telle et telle a été dans le canton de Fribourg baptisé son enfant, on va le convoquer et le dénoncer, etc. Donc, il faut quand même alors être protestant. Et puis, quand on est dénoncé, ben, on paye des amendes. Alors, ça ne va jamais. Donc, on n'est jamais brûlé ou... C'est pas une atteinte à sa vie, mais en tout cas, c'est une atteinte à sa vie spirituelle ou à sa vie sociale. Le problème, c'est que Viret estime que les consistoires ne sont pas assez sévères. Vous savez que ce sera le même problème qui se passera à Genève. Hein. Genève aura aussi des gros problèmes avec Calvin, qui estime aussi que la discipline n'est pas assez sévère. Finalement, les tensions se nouent assez pour que non seulement... Le catéchisme de Lausanne, la liturgie de Lausanne, qui, comme je vous l'ai dit, était très inspirée par Genève, vont être interdites. Berne va dire maintenant c'est la liturgie de Berne, le catéchisme de Berne. On va aussi interdire les colloques pastoraux, parce que c'est des lieux de rébellion. Et que va dire Viret ?
Ce ne serait pas avoir aboli la tyrannie que d'avoir affranchi l'Église du pouvoir du pape si les ministres étaient forcés d'accepter des cérémonies et une discipline ecclésiastique sur un ordre du prince. Messieurs de Berne veulent tenir sur leurs pattes les pauvres ministres et prêcheurs qu'ils ont comme des valets pour les faire trotter et passer sous le bras comme il leur plaira.
Et alors Viret dit, pour des questions de discipline ecclésiastique, puisqu'il s'agit de savoir si on peut ou non communier, seuls les ministres sont à même de décider. Et les Bernois refusent. Les Bernois refusent de donner ce pouvoir à Viret. Il y a là un moment où il y a un échange de lettres. Viret disant, si on ne reçoit pas ce pouvoir, il n'y aura pas de Sainte-Cène à Noël. On est en 1558. Et puis, on se communique par écrit, c'est l'hiver. Berne réécrit en disant, on vous oblige à célébrer la Sainte-Cène. la lettre arrive trop tard, la Sainte Cène n'est pas célébrée. Alors là, pour Berne, c'est la goutte de trop. Après Noël, Viret, Vallier, Blin, les trois pasteurs de Lausanne sont convoqués au château. Ils sont interrogés, ils sont finalement emprisonnés pendant 3 jours et le jugement tombe et Viret est banni à vie du pays de Vaud. C'est énorme hein, tout de même. Banni à vie du pays de Vaud. 1559. Donc en janvier 1559, il va s'en aller au mois de mars. Il va d'abord s'en aller à Genève, où il est très très bien accueilli. Malheureusement, comme je vous ai dit, les deux attentats dont il avait été victime l'avaient laissé des blessures aussi à vie, de sorte qu'il arrive en très mauvaise santé et que les médecins de Genève lui disent « Cher ami, vous n'allez pas passer le printemps, il faut que vous partiez au sud ». Et on voit alors Viret qui va partir en France, qui va aller entre autres à Nîmes, qui va aller à Montpellier. Il prêchera 2 heures à Montpellier. Il y aura 800 personnes qui viendront l'écouter. Donc il aura un succès fou. Donc c'est un prédicateur, semble-t-il, tout à fait extraordinaire. La reine Jeanne d'Albret, elle va appeler Pierre Viret dans son royaume de Navarre, Béarn, Navarre, elle va l'appeler et il va aller et il va être nommé surintendant et il va diriger, présider 4 synodes. Il aura un traitement nettement supérieur aux autres pasteurs. Donc il va finir une vie, on pourrait dire, assez féconde, assez heureuse, reconnue dans le sud de la France. Donc il meurt en 1571 à Pau. Mais même s'il a fini, disons, heureusement, une fin de vie, semble-t-il, assez heureuse, il n'a jamais oublié son pays, dans lequel, semble-t-il, il n'est revenu que 3 jours. Il est revenu 3 jours à Or pour régler des questions d'héritage, mais autrement, il n'est jamais revenu y vivre.
Sur les traces du réformateur Pierre Viret, une balade dans les rues de Lausanne, proposée par la pasteur Jocelyne Muller et que vous avez suivi, Evelyne Auberçon. Alors, on l'a bien compris, Pierre Viret va jouer un rôle très important dans le passage à la réforme du pays de Vaud. Pourtant, c'est, on va dire, un illustre inconnu aujourd'hui, ce Pierre Viret, sauf peut-être pour vous. Karine Crouza, bonsoir.
Bonsoir.
Karine Crouza, vous êtes maître assistante en histoire à l'Université de Lausanne. Vous vous êtes intéressée à Pierre Viret dans votre travail de thèse. Mais au fond, pourquoi cet intérêt pour un personnage qui aujourd'hui est pratiquement un inconnu?
Bon, je suis pas la seule à m'occuper de Viret, je vous rassure. On est quand même une poignée. J'ai découvert Viret il y a environ 10 années quand je cherchais un sujet de thèse. Et pour moi, ces textes, ça a tout de suite été une sorte de choc, vraiment, parce que déjà, ils sont extrêmement bien écrits, il y a beaucoup d'humour, mais surtout, ils nous font vraiment rentrer dans les mentalités du XVIe siècle. Et grâce à ces textes de Viret, on a toutes les problématiques importantes du XVIe siècle, que ce soit l'humanisme, la réforme, les transformations sociales, les guerres, enfin, vraiment tout ce qu'on trouve dans le XVIe siècle qui sont présents. Et c'est une excellente base pour les historiens, pour rentrer dans cette période.
Mais pourquoi est-ce que l'histoire a retenu Calvin, surtout Calvin, et pas du tout, ou presque pas Viret?
Viret a peut-être été victime de Calvin. Il est resté, c'est vrai, dans l'ombre de Calvin jusqu'à aujourd'hui, probablement parce qu'il écrivait surtout pour ses contemporains. Il voulait vraiment persuader ses contemporains de la vérité de la religion protestante, transformer leurs mœurs, améliorer la société. Il essayait pas vraiment, comme Calvin, de bâtir un système théologique cohérent du début à la fin et de le présenter. Donc, après une génération ou deux, ces écrits ont plus été réimprimés parce qu'ils étaient moins utiles au XVIIe siècle que la théologie calviniste présentée par Calvin. Donc, pour les générations d'après, les textes de Viret étaient beaucoup moins pertinents que ceux de Calvin, et c'est seulement les historiens maintenant qui sont en train de redécouvrir la force des textes de Viret et de les étudier, de voir qu'en fait, il y a quelques différences avec la théologie de Calvin, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on commence à peine à apercevoir.
Donc, on connaît très peu la théologie et la pensée de Pierre Viret, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire comme différence ou similitude avec celle de Calvin?
Bon, il faut...
Parce qu'ils sont nés en même temps, enfin presque, hein, ils ont 2 ans de différence, Calvin et Viret.
Ils sont contemporains, c'est des amis très proches tout au long de leur vie. On a vraiment des dizaines de lettres qui en témoignent, échangées entre Genève et Lausanne. Même s'il y a des différences, le principe de base, c'est de se rendre compte que, dans le fond, Viret respecte énormément Calvin et suit sur tous les éléments principaux théologiques la pensée de Calvin. Après, sur la pensée sociale, il y a, à mon avis, en tout cas des différences d'accent.
Est-ce que cette différence de notoriété entre Calvin et Viret est liée aussi finalement aux qualités littéraires? Enfin, ce que Calvin a vraiment pondu du texte, a écrit énormément. On sait que Viret, par contre, prêchait beaucoup dans les campagnes. Est-ce que là aussi il y a une différence, ou est-ce que ça n'est pas un littéraire, Viret?
Viret a beaucoup écrit, et en tout cas de mon point de vue, il a un immense talent littéraire. C'était peut-être pas le classicisme qui a été apprécié au XVIIIe, XIXe siècle. Il est plus prolixe, il écrit sous forme de dialogue souvent. Il fait dialoguer des personnages pour rendre ses textes plus vivants. Mais pour moi, il a une grande précision dans l'usage des mots, dans la construction des phrases. Voilà, c'est du français du XVIe siècle. Ça se lit pas forcément extrêmement facilement, mais pour moi, il a un immense talent littéraire. Calvin, il a écrit plus en latin, ou tout autant en latin qu'en français. Viret a beaucoup plus écrit en français, il a écrit vraiment très peu en latin. Mais je pense que tous deux ont vraiment un talent littéraire particulièrement grand.
Par contre, Viret a été moins réédité que ne l'a été Calvin.
Mm-hmm. Je pense que ça tient surtout au fait qu'il écrivait pour son époque, contrairement à Calvin, qui, dès 1536, Calvin, il bâtit vraiment un système. Il publie l'Institution de la religion chrétienne, qui a la prétention de définir toute la théologie. Du début à la fin. Donc il bâtit ce système d'abord en latin, ensuite il le traduit en français, et ça, c'est un outil que les théologiens vont utiliser jusqu'à aujourd'hui finalement. Les théologiens lisent encore dans leur cursus cette institution chrétienne de Calvin.
Vous disiez tout à l'heure, Karine Crouzat, que Viret a développé toute une pensée sociale, et notamment qu'il était très scandalisé par les injustices sociales.
Oui, il l'écrit d'ailleurs dans une lettre à Calvin. Il est vraiment troublé, perturbé de voir ces inégalités sociales, de voir des gens qui meurent de faim d'un côté et d'autres qui font des banquets immenses. Et il essaye de trouver des moyens pour améliorer la situation. Et de manière concrète, il propose même des idées de lois qui pourraient permettre d'améliorer la situation. Des lois somptuaires qui empêchent de dépenser, par exemple, trop dans un seul banquet. Parce qu'il a vraiment l'idée que les richesses sont en quantité finie. Ce que certaines personnes ont va manquer à d'autres. Donc il veut régulariser en fait l'échange des richesses.
Est-ce qu'on peut dire quelque chose un peu du contexte dans lequel Calvin et Viret ont évolué? On a l'impression que ce sont des vies complètement chahutées, on passe d'un endroit à l'autre. C'est représentatif de tout ce que les réformateurs ont vécu à cette époque-là?
Oui, les réformateurs se déplacent beaucoup. La situation change radicalement. Il y a des territoires qui passent à la réforme, d'autres qui restent catholiques.
On sait qu'il y a des intérêts politiques aussi, bernois notamment, qui sont en jeu.
Il y a des intérêts politiques énormes. Si on pense que les biens de l'Église, une fois qu'un territoire passe à la réforme, reviennent aux mains de l'État. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé dans le territoire bernois. C'est des sommes vraiment très très importantes, aussi des impôts ecclésiastiques comme la dîme qui reviennent à l'État. Donc il y a un intérêt
financier
pour les territoires, pour les autorités politiques à passer à la réforme. Après, on ne peut pas réduire le passage à la réforme à des intérêts financiers, ce serait vraiment beaucoup trop simpliste, mais ces intérêts existent.
Est-ce qu'on peut dire quand même que la religion tout d'un coup devient une sorte d'outil aux mains des Bernois pour asseoir leur pouvoir, là où ils veulent conquérir des territoires, notamment dans le pays de Vaud?
Je pense qu'on peut le dire, que pour Berne, c'était important que le pays de Vaud, le territoire qu'ils ont conquis en 1536, deviennent protestants et de convaincre les gens de la vérité de la religion protestante. Ils étaient bien conscients que sur une génération, c'était peut-être pas possible, mais en donnant le catéchisme aux enfants, en les formant dans la nouvelle religion, au moins sur la deuxième ou troisième génération, c'était possible. Et c'était important parce qu'il y avait toute une partie des Vaudois qui pensaient, qui croyaient réellement que le duc de Savoie allait pouvoir reconquérir ses terres et attendaient juste le jour où le duc de Savoie reprendrait le pays de Vaud et où il pourrait redevenir catholique. Donc, aussi pour des raisons politiques, si on persuade les gens que la religion protestante est la vraie, ils ont moins envie de redevenir savoyards. Je pense qu'il y avait ce calcul-là aussi.
Et est-ce que, peut-être par rapport à cette époque, on arrive à caractériser le catholicisme vaudois du début du XVIe siècle? Ça ressemble à quoi avant que la réforme arrive?
Bon, il y a toute une série de croyances et de pratiques que la réforme va abolir. Elles sont listées dans les édits de réformation. Par exemple, le jeûne, le carême aussi, ça s'est aboli par la réforme. Il y a le culte des saints, le culte des reliques qui lui est lié. Les images, les représentations des saints qui sont dans les églises, que ce soit des statues ou des peintures qui sont supprimées des églises en 1536.
Mais Viret est aussi très révolté, Viret et les autres réformateurs, par l'état du clergé à l'époque.
Oui, ça c'est un pan qui a probablement été accentué par les historiens protestants du 19e et début du 20e siècle. Vraiment, on a noirci le clergé catholique, voilà, complètement décadent, qui savait à peine lire. C'est certainement exagéré, mais disons que... Bon, à Lausanne, on sait qu'il y a un évêque du 15e siècle, l'évêque de Saluces, pour qui la paroisse était importante. Enfin, il fait des visites de tout son diocèse, donc il a vraiment un souci de pastoral et d'être proche de la population.
Peut-être qu'il faut rappeler que le diocèse en question, donc l'évêché de Lausanne, est un territoire immense et qui regroupe pas seulement une partie de la Suisse romande, mais bien au-delà.
Plus grand. Bon, il y a aussi il va jusque à l'évêque de Constance, qui va jusqu'à Berne, l'évêque de Sion et l'évêque de Genève qui a perdu son évêché, en tout cas la ville de Genève, formellement en 1535. Donc c'est un territoire plus grand que Lausanne, et environ bien plus grand, effectivement. Mais pour revenir au clergé catholique, on manque encore d'études pour savoir vraiment de quoi ils étaient capables. On a aussi beaucoup utilisé le fait qu'ils participent pas ou peu à la dispute de Lausanne. Certains disent honnêtement qu'ils sont pas capables de disputer. Peut-être que c'est l'habitude aussi de disputer en français qu'ils n'ont pas. Ils ont l'habitude de disputer en latin avec des termes techniques. Et tout d'un coup, on est en français, ils sont dépourvus.
On rappelle juste la dispute, c'est cet événement de 1536. Hein,
voilà. Qui va faire passer le pays de Vaud à la réforme.
Qui est censé prouver la vérité de la religion protestante. Et on peut aussi dire que les chanoines de Lausanne, qui étaient les mieux préparés, donc pour les plus formés, souvent ils avaient des doctorats... des universités de Bologne ou de Paris, plutôt des doctorats en droit d'ailleurs, mais c'était vraiment les personnes les mieux formées. Eux, ils refusent de participer à la dispute. L'évêque leur interdit d'y participer. Ils disent on doit attendre un concile universel, ça sera le concile de Trente qui commence en 1545. On ne peut pas chacun de notre côté discuter de ces questions qui vont bien au-delà en fait de la situation lausannoise.
Vous, Karine Crouza, comme historienne, vous allez participer à... Il y a beaucoup d'événements qui vont avoir lieu dans le canton de Vaud autour du 500e anniversaire de la naissance de Pierre Viret. Vous allez participer notamment à une exposition qui se tiendra à la bibliothèque cantonale universitaire au Palais de Rumine.
À Lausanne.
Qu'est-ce que dans cette exposition on va pouvoir voir? Qu'est-ce que vous avez, vous, envie de mettre en avant dans ce personnage?
Moi, j'avais envie de faire entrer le large public dans les textes de Viret et de leur montrer que dans ces textes du XVIe siècle, il y a des thèmes qui sont encore intéressants pour aujourd'hui ou qui peuvent nous toucher ou simplement nous intéresser. Donc, j'ai choisi un certain nombre de thèmes. Je les ai expliqués. Ensuite, on a sélectionné des extraits et c'est des comédiens qui les lisent. Et ça rend Viret beaucoup plus présent, beaucoup plus vivant. On présente aussi 9 ouvrages de Viret parmi la quarantaine qu'il a écrit et on permet de comprendre un peu le contenu de ces ouvrages. Donc c'est vraiment l'idée de faire entrer dans la pensée, dans les livres de Viret.
Merci beaucoup, Karine Crouza, pour ce commentaire et cette explication que vous venez de nous donner sur l'exposition qui a lieu donc au Palais de Rumine à partir du 1er juin. On l'a noté, donc à Lausanne. Des références qu'on retrouve sur notre site internet, évidemment, Evelyne Auberçon.
Au passage, on peut aussi donc mentionner le colloque qui va avoir lieu à l'Université de Lausanne en septembre. Vous êtes, Karine Crouza, justement dans le comité d'organisation de ce colloque. Et puis donc, on peut aussi mentionner le spectacle mis en scène par Jean Chollet, qui est à la fois comédien et pasteur, qui s'intitule Viret banni et qui sera joué par des pasteurs et des diacres de l'église réformée vaudoise, un spectacle à l'église Saint-Laurent du 20 au 27 mai.
Merci beaucoup Evelyne Auberçon, des références que vous retrouvez bien entendu sur religion.rsr.ch et puis n'hésitez pas non plus à nous laisser un message sur notre répondeur, le 058 236 60 70.
I think we are going down, the city rise and the ocean rise. I think we are going down, and I hold on to you, and I hold on to you, and I think God is breathing in, and if you didn't believe, you better know, because I think we are going down, if I don't know, so hold on to you, and I hold on to you, and I put your hands on my hips. I say, do you believe that God is in our pleasure? You know I believe, I believe, I believe, I believe in the rhythm is good, and the rhythm is good, and the rhythm is good. And I hold, and the birds sing when my baby cries, and all is a song, and the wind blows when my baby sighs, and all is a song. And my baby keeps a beat when he's walking down the street. I say your rhythm is good, and the rhythm is good, and the rhythm is good. And I hold on to you, but I think we are going down. I hear the trumpet call and the marching band. I think we are going down. The colors flash by so fast. I think God is breathing in. And if you didn't believe, you better know. Do you believe? Baby, do you believe? Baby, do you believe that God is in our pleasure? You know I believe, I believe, I believe, I believe in the rhythm is good, and the rhythm is good, and the rhythm is good. Hold on to you.
Song X, Kyrie Christmanson. On passe à la tranche culturelle de cette émission. Avec un changement, nous étions dans les expressions bibliques ces dernières semaines et là nous allons retrouver un chroniqueur que vous avez déjà entendu dans Haute Fréquence il y a quelques mois, Jean-François Maillère, historien des religions basé à Fribourg, qui anime le site d'information religion.info, religion.info qui traite donc du fait religieux, de son développement sociologique. Et Jean-François Maillère, eh bien ce soir, dans sa chronique, va nous emmener en Inde.
Il est mort le matin de Pâques. Devant sa dépouille, des foules sont venues se recueillir, ainsi que la plupart des grandes figures politiques indiennes, tout parti confondu. Satya Sai Baba, c'était peut-être le gourou indien contemporain le plus influent, et plus qu'un gourou, à vrai dire, aux yeux de ses disciples, rien moins qu'une incarnation divine. Né en 1926, il avait déclaré, dès les années 40, être la réincarnation d'une figure sainte très populaire en Inde, Sai Baba de Shirdi, décédé en 1918. Satyai Sai Baba se fit notamment connaître par des phénomènes miraculeux, en particulier la matérialisation d'objets qui paraissaient surgis de nulle part, ce qui lui valut aussi quelques dénonciations de magiciens professionnels affirmant être capables de faire la même chose. Son message reprenait des thèmes familiers de l'hindouisme, mais c'était sa personne même qui attirait. Chacun de ses disciples, de ses millions de disciples, avait le sentiment d'entretenir avec lui un lien très intime. Il rencontra un réel succès, notamment dans les classes moyennes urbaines de l'Inde, et des groupes se formèrent dans le monde entier, y compris en Suisse. En Inde, chaque semaine, de grands quotidiens reproduisaient ses discours, et son ashram dans la petite ville de Puttaparthi, dans le sud de l'Andhra Pradesh, attirait tant de visiteurs que ses disciples y firent même construire un aéroport pour avions de ligne. Une salle pouvant accueillir 20 000 personnes y fut construite également. Durant les dernières décennies, l'accent était de moins en moins mis sur les aspects miraculeux, mais beaucoup plus sur l'action sociale et éducative, hôpitaux, écoles et même une université. Les disciples savaient bien sûr que Satyai Sai Baba ne serait pas avec eux éternellement. Mais il avait annoncé qu'il serait en bonne santé jusqu'à l'âge de 96 ans et quitterait ce monde en 2022 avant de se réincarner dans le Karnataka. Pendant toute son hospitalisation, malgré un état décrit par les médecins comme critique, la direction de l'organisation n'a cessé d'affirmer sa confiance. La maladie de Satyai Sai Baba n'était qu'une mise à l'épreuve de la foi des disciples. Son décès, bien avant 2022, pouvait donc causer quelques perplexités. En Orissa, par exemple, des centaines de dévots ont commencé à prier, au lendemain du décès, certains que Satyai Sai Baba allait revenir à la vie. Comment ont-ils expliqué aux journalistes? Des médecins sont-ils compétents pour décréter que Dieu est mort? D'autres ont tenté de réconcilier la prédiction d'une vie jusqu'à 96 ans avec la réalité d'un décès 10 ans trop tôt. Dès le jour du décès, un de ses disciples annonçait qu'il aurait fallu calculer la durée de la vie de Satyai Sai Baba en années traditionnelles lunaires et non pas solaires. D'autres, enfin les plus nombreux, concluent que ce départ prématuré a été le fait de la volonté de Sai Baba, même si l'on n'en comprend pas les raisons. La question maintenant, et c'est aussi celle que posent les médias indiens, c'est celle de l'avenir de l'organisation. Un scénario classique dans un cas pareil, c'est le passage d'une autorité charismatique à une direction plus bureaucratique. Mais Satyai Sai Baba a compliqué par avance ce processus en annonçant qu'il se réincarnerait dans les années suivant sa mort, mais l'on devine déjà la difficulté qu'il pourra y avoir à déterminer l'identité de la future incarnation. Et le jour où un ou des prétendants à ce titre se manifesteront, rien ne dit que les responsables de l'organisation seront unanimement convaincus de la légitimité de l'un d'eux et seront prêts à lui remettre le contrôle du mouvement et de ses biens.
Chronique signée Jean-François Mayer, historien des religions et animateur du site internet religion.info, un chroniqueur que vous retrouverez durant les prochaines semaines. Mais si vous en avez envie, vous pouvez bien sûr réécouter cette chronique sur notre page internet. Je vous en rappelle l'adresse religion.rsr.ch.
Infotrafic RSR
avec le parking de la Riponne et son service Riponne Express.
Le trafic est pour l'heure fluide sur les routes de Suisse romande. Dès demain soir et durant toute la semaine prochaine sur l'axe Neuchâtel-Bienne, le tunnel de Glérès sera interdit à toute circulation chaque nuit de 20h à 5h du matin. Des travaux se dérouleront dans cet ouvrage, mais une déviation sera mise en place. Pour plus d'informations, le numéro 163 est à disposition. Il coûte 90 centimes l'appel, puis 90 centimes par minute. et le groupe s'appelle Plan B. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Il me reste à remercier ceux et celles qui y ont contribué. Gabriel de Sarzan et Vino Berson pour le contenu, Didier Rossa pour la réalisation, Stéphanie Jovanovic pour les musiques et en régie ce soir, Marc Frochot. Le numéro de téléphone de l'émission, je vous le rappelle, 058 236 60 70, 058 236 60 70 pour vos commentaires, vos réactions ou toute autre information que vous souhaiteriez nous transmettre. Après les informations, vous avez rendez-vous avec le grand entretien de Babylone. C'est Hélène Carrère d'Encausse qui est au micro du grand entretien. Il est 21h, je vous laisse, ce sont les informations.